Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore les nouvelles façons de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast, on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Boisiz. Salut Mehdi, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Salut Xavier, enchanté, merci de me recevoir. On est tous les deux dans mon salon, à Didier, en Martinique, pas très loin de chez toi d'ailleurs, donc c'est assez marrant de se retrouver ici, sachant qu'on s'était rencontrés à San Francisco à l'époque, à The Refiners, quand on montait tous les deux des startups. Donc pour me présenter rapidement, aujourd'hui, je suis consultant en stratégie marketing pour des entreprises de crypto-monnaie Web3. Donc j'arrive dans une boîte, je mets en place une stratégie marketing de A à Z, je recrute des freelances ou des gens quand il y a besoin, et puis on applique des méthodes pour faire grossir ces entreprises-là dans le monde des cryptos, qui est un marché quand même assez de niche encore aujourd'hui, et donc très intéressant, j'apprends des choses tous les jours. Et avant ça, j'ai monté une boîte de gaming robotique, on va dire, pour faire simple, juste après l'école. Donc j'ai fait une école d'ingé en maths appliquées informatique. Je me suis retrouvé à San Francisco, on a levé des fonds, je me suis retrouvé en Corée du Sud, un peu partout. J'ai continué l'aventure en Finlande en m'associant à d'autres gens qui faisaient à peu près la même chose dans le gaming et la robotique. Et puis j'en ai eu marre de la Finlande, du froid, moins 25 degrés l'hiver. Et donc là, j'ai dit, bon, j'ai des compétences, je sais créer des business, je sais monter des communautés, etc. Donc je me casse et je vais aller un peu à droite à gauche sur des îles où il fait bon vivre, près de la mer, au soleil, pour faire ma propre popote.
Ouais, mais moi c'est ça que je trouve qui est génial avec toi, c'est que donc comme tu disais, on s'est rencontrés à San Francisco en 2016. À l'époque, tu sortais tout juste de l'école, ou presque. Et en fait, t'as quasiment toujours été ce qu'on appelle un digital nomade, c'est-à-dire quelqu'un qui a un business, un travail qui lui permet de voyager tout le temps. Pendant ces quelques années, 6 ans, en gros, t'as vécu aux États-Unis, t'as été faire des tours en Corée, t'as vécu en Finlande, t'as vécu un peu partout en Union européenne, en Grèce, t'as été faire un tour en Canaries, au Portugal et tout ça. Voilà, t'es vraiment l'archétype, on va dire, je travaille dans une économie globalisée et j'en profite pour voyager, faire plein de trucs, discuter avec plein de gens et tout ça. Est-ce que c'était un choix de ta part? Est-ce que tu t'es dit tout de suite en sortant de l'école, je veux faire ça? Ou est-ce que t'es tombé dedans par hasard? Tu peux nous expliquer un peu d'où c'est venu?
Ouais, c'est une bonne question. À la base, je voulais faire pilote de chasse, donc j'avais fait un lycée militaire en classe préparatoire. J'étais admis à Saint-Cyr et à l'école de l'air, mais j'avais été refoulé à cause d'un souci au cerveau, électroencéphalogramme à l'école de l'air. Donc malheureusement, ce rêve, pour des raisons biologiques, et oui, il n'y a pas de justice quand on parle de nature, ce rêve s'est achevé et je me suis retrouvé, j'ai fait comme tous les gens en prépa qui n'ont plus trop d'idées de quoi faire ou qui n'ont jamais eu d'idées de quoi faire de leur vie. J'ai pris la meilleure école que j'avais, l'ENSIMAC, donc j'y ai été. Et là, j'ai découvert l'informatique et un peu tout ce monde-là du développement. J'y connaissais rien du tout. Moi, je voulais faire des maths, j'adorais les maths. Et là-dedans, je suis tombé sur la junior entreprise. Et il y avait un président de la junior entreprise qui était là et qui était le dernier finalement encore en vie de l'association, qui m'a parlé un peu de tout ça et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir trouver des clients, signer des contrats, gagner de l'argent et pouvoir faire ça un peu en mode tous les coups sont permis. Donc ça veut dire tant qu'on est dans la légalité évidemment, mais que voilà, on se réveille le matin, on se dit qu'est-ce que je fais aujourd'hui et on se dit bon, faut que je trouve des clients, comment je fais ça? Je sais pas, il y a internet, je peux aller voir des gens, les appeler, enfin on est complètement libre et cette espèce d'esprit de liberté totale avec un but final qui est quand même de gagner de l'argent, d'embaucher des gens, de gagner plus d'argent et etc. Ça fait très capitaliste ce que je dis, mais globalement, voilà, de créer son propre truc, soi-même, ça m'a fasciné. Et donc, je suis tombé là-dedans en école via la junior entreprise à l'époque. Donc, je suis devenu président. Je me suis entouré d'une équipe, des gens exceptionnels à l'époque. On a triplé le chiffre d'affaires. Et puis, l'année d'après, j'ai formé un peu l'équipe suivante qui ont doublé le chiffre d'affaires à leur tour. Et depuis, du coup, le chiffre d'affaires est resté stable depuis des années et des années. Donc ça, c'était quand même assez une fierté. Et puis de me dire, je peux construire des choses qui vont durer comme ça. Ça a été vraiment très, très marquant pour moi. Et donc, c'est pour ça ensuite que je me suis mis à monter des boîtes. Et sur la partie voyage, finalement, ça arrivait, c'était pas du tout prévu. Moi, c'était vraiment créer des projets qui m'intéressaient, créer ce genre de choses. Et les voyages, voyage, c'était juste la conséquence des projets que je créais. Et ça a commencé avec San Francisco, comme tu disais, parce que j'avais très peu voyagé avant ça, finalement. J'étais en école, etc. J'étais en classe prépa, à part les vacances avec les parents, évidemment. Mais avant ça, j'avais pas eu spécialement d'opportunité de beaucoup voyager. Et donc, c'est vraiment en faisant cette start-up de Kissbat à l'époque, de Gaming Robotics, en postulant à cet accélérateur à San Francisco, qu'on s'est retrouvé comme ça. En un mois, on a eu la réponse. Et puis un mois plus tard, il fallait qu'on soit à San Francisco. Et donc, lâcher nos appartements, faire les papiers, faire un visa rapidement. Et se retrouver comme ça du jour au lendemain à galérer dans les rues de San Francisco, à être complètement stonné par les gratte-ciels qui nous filaient le tournis. On n'avait jamais vu ça de notre vie avec Cyril, mon cofondateur. Et donc voilà, on s'est retrouvé là-dedans. Et puis ensuite, pareil avec la Corée du Sud, c'était une conséquence encore une fois du fait de trouver des investisseurs à San Francisco qui étaient coréens, qui croyaient au projet parce qu'en Corée ils font beaucoup d'e-sport, de gaming, etc. Donc, et de robotique, et ils adoraient ce qu'on faisait. Et donc de se retrouver comme ça de fil en aiguille à devoir aller en Corée du Sud, pitcher des mecs. Je me suis retrouvé après face à un accélérateur, et puis il y avait un demo day, on pitchait devant 1500 personnes de toute l'Asie. Et donc après, je me suis retrouvé avec des invitations à Hong Kong. Donc je me retrouve à Hong Kong, et puis je rencontre des investisseurs anglais, donc je vais à Londres, et puis eux-mêmes me présentent des gens qui sont en Finlande. Donc je me retrouve finalement à aller en Finlande et puis à y vivre pendant un moment. Donc finalement, ça a été toujours la conséquence des projets que j'ai créés. Et puis à aucun moment, par contre, parce que les opportunités se présentent, mais on peut toujours les refuser, mais par contre moi j'étais plutôt dans une démarche de dire ok, dès qu'il y a un truc qui se présente, je fonce. Et donc j'avais pas de contrainte de me dire ah mais non, le mois prochain je peux pas, je suis en France, j'ai mon appart, j'ai mon ceci, cela. Non, j'étais très libre, j'avais lâché mon appart justement pour ne pas avoir de coûts fixes en France. Mais encore une fois, tout ça comme conséquence des projets que je crée.
Mais du coup, t'avais déjà la dimension internationale à tes projets? Enfin, est-ce que déjà depuis la jeune entreprise, quand t'étais encore à l'école, tu avais déjà compris que le monde était globalisé et que du coup ton entreprise elle pouvait être aussi bien cibler des mecs de Grenoble où t'habitais, mais aussi des Autrichiens, des Coréens, des gens en Amérique du Nord?
Alors non, ça je l'ai appris à San Francisco. Okay. C'est ça qui m'a fait le déclic, parce qu'avant ça à Grenoble, il y avait déjà pas mal de business à aller chercher dans le coin. Ouais. Et donc simplement je regardais pas forcément vers l'extérieur parce que j'en avais pas besoin, tout simplement. J'avais déjà un bon niveau d'anglais, un peu par chance, j'ai envie de dire. Et donc voilà, j'avais pas ce problème de barrière de la langue, mais juste j'avais pas forcément l'intérêt d'aller voir à l'extérieur parce qu'il y avait déjà énormément de choses à faire sur place. Et pareil, quand on a créé la startup de robotique avec Cyril, le délire Silicon Valley, ça nous a toujours fait rire à l'époque, on n'y comprenait rien, et on se disait non mais aujourd'hui il y a internet partout, c'est quoi cette idée d'aller se foutre à San Francisco là-bas, enfin, et on trouvait ça un peu rigolo, un peu bête finalement de dire ça. Et quand on a postulé pour l'accélérateur The Refiners, on avait fait ça, je me rappelle, il y avait le formulaire de Play, et j'avais tout écrit en majuscule énorme, j'avais fait un truc à l'arrache complet. Et finalement, ça avait séduit Carlos, je pense, parce qu'il m'avait rappelé. Mais le truc, on l'avait fait un peu comme une blague, quoi. Et de se retrouver finalement à San Francisco, c'était vraiment par hasard. Et nous, on était à Grenoble, on faisait nos robots, et on se disait, on a Internet. Donc à ce moment-là, oui, il y avait le déclic de se dire, on a Internet, donc ça sert à rien d'être ailleurs, on peut faire nos trucs à Grenoble et toucher des gens un peu partout. Donc ça, oui, ça, je l'ai eu à Grenoble quand on a commencé la startup de robotique, parce qu'évidemment, des robots, du gaming, etc., on va pas aller vendre ça juste dans le bassin grenoblois ou en Isère, quoi. Donc oui, j'ai eu ce déclic, mais c'est surtout vraiment à San Francisco où j'ai réalisé que, en rencontrant plein de gens, etc., des gens qui avaient fait des carrières exceptionnelles, et de se dire voilà, faut réfléchir à l'échelle du monde et vraiment faire son acquisition partout. Et après, quand j'ai été en Corée du Sud, etc., là pareil. Et ce qui était frappant en fait, c'était de me dire, quand je suis arrivé en Corée, déjà quand je suis arrivé à San Francisco, je me suis dit non, mais ce qu'on fait, tout le monde le fait déjà. On va passer pour des ringards. En fait, pas du tout. On est passé pour des mecs assez fous en fonction des endroits où on était, et si on pitchait bien, évidemment, c'est pour des trucs qui avaient jamais été vus avant. Et d'ailleurs, ça, c'était un des problèmes. C'est ce qu'on faisait n'avait jamais été vu avant.
Tu peux nous expliquer en deux mots ce que faisait Kissbat, parce que ça vaut le coup d'être écouté. Effectivement, ouais. C'est toujours, même plusieurs années après, c'est toujours un peu en regard.
Un peu what the fuck, ouais. Là, le business model à l'époque était inexistant, hein, clairement. En gros, j'avais été pendant mes études, après la junior entreprise et tout ça, j'étais devenu champion d'e-sport sur un jeu qui s'appelle World of Tanks. Donc j'avais été sur scène, j'avais joué devant des milliers de personnes, un truc assez miraculeux finalement. Et donc j'adorais les jeux vidéo. J'étais monté à très très haut niveau sur World of Tanks, avec une équipe, des sponsors, des voyages pour aller jouer à droite à gauche. Et j'en avais un peu marre de passer tout ce temps devant des écrans. Et donc je m'étais dit, on va faire des jeux dans le monde réel, mais aussi cool que des jeux vidéo. Et donc on va faire des robots qui se battent. Et d'ailleurs c'était devenu le nom de la boîte KIZBAT, des robots qui se battent. Petit jeu de mots marrant. Et après il faut aller le pitcher, hein, ce nom partout dans le monde. mais il passait assez bien, même en Corée du Sud finalement, il est passé. Faut juste l'expliquer quoi. Mais voilà, donc on faisait des robots au début, donc on faisait du freelance avec Cyril. Et en parallèle, donc sur notre temps libre, on créait des prototypes. Donc pendant 6 mois, on a créé des prototypes de robots. Chaque mois, en améliorant avec des servomoteurs, de l'électronique. Donc on avait transformé tout notre bureau. Et au bout d'un moment, on s'était dit, bon c'est chiant, comment est-ce qu'on fait tester nos robots au monde entier? Parce que là, et donc cette idée d'acquisition partout dans le monde, et on s'est dit, parce que voilà, on a le robot entre nos mains, nous on est sur internet, on fait des produits sur internet en tant que freelance ou sur nos projets perso en général, là on a un truc physique, comment est-ce qu'on fait? On va pas aller, on l'a fait un petit peu au début, mais on va pas aller voir des gens, trouver des bêta users, bêta testeurs pour leur donner le robot dans les mains, leur demander leur avis, c'est un peu ridicule, faut qu'on automatise ça. Et donc là j'avais eu l'idée de dire, bon le robot on va le connecter à internet, on va mettre une caméra en face et on va permettre aux gens de jouer à distance avec ce robot pour nous donner des feedbacks en ligne. Mais le but initial, c'était vraiment l'aspect marketing, de me dire, je peux faire des campagnes de pub, je peux faire de l'acquisition en ligne, et je redirige les gens vers un funnel. À la fin du funnel, ils s'inscrivent et ils ont accès à un stream vidéo sur leur écran, et ils peuvent voir le robot, et avec leur touche de clavier, ils peuvent bouger le robot à distance. Et donc comme ça, ils peuvent nous donner des feedbacks à la fin de la partie, et on peut automatiser un peu tout ce processus de test et d'acquisition de feedback. Et finalement, les gens ont pété un plomb. La première fois que les gens ont testé, on a fait un prototype vraiment dégueulasse via Skype, avec une caméra qui filmait le truc, un petit bout de code qui tournait sur une page web à côté, pour que les gens puissent utiliser leur clavier et envoyer leur commande au robot. Et en fait, même sur le prototype Skype vraiment dégueulasse, les gens ont adoré et ont halluciné de pouvoir contrôler un objet physique à des milliers de kilomètres, parce qu'on avait, j'avais un ami en Bulgarie, j'avais un ami à Londres, j'avais un ami à San Francisco à l'époque déjà, j'avais donc des copains un peu à droite à gauche dans le monde, et donc de voir des gens de n'importe où dans le monde qui pouvaient contrôler un objet physique à Grenoble dans notre petit bureau, et eux en fait leur réaction était tellement incroyable qu'on s'est dit, mais attends, mais on tient un projet de malade là, on tient un concept de fou de pouvoir contrôler des robots à distance. Et donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pas qu'on construise nos robots nous-mêmes, il faut qu'on achète des drones, des robots et des trucs déjà existants, comme ça on fait pas de hardware, on perd pas de temps là-dessus, et nous on se concentre sur la technologie de streaming vidéo à faible latence, parce que quand j'appuie sur la touche de mon clavier à Séoul, j'ai envie que le robot bouge rapidement déjà à l'autre bout du monde, mais ça va vite, parce que quand j'appuie sur une touche de clavier, j'envoie une commande qui est finalement un caractère ou une suite de caractères, donc c'est des petits messages légers. Et par contre, le feedback, faut le recevoir via vidéo, et c'est ça qu'il fallait optimiser. Donc on est devenu une boîte de streaming, plutôt streaming vidéo, d'optimisation de streaming vidéo, connectée à du hardware.
Moi, ce que je trouve intéressant dans ton expérience, même au-delà de qui se battent, et tu vas nous expliquer un peu ce que tu as fait derrière, c'est qu'en fait, tout de suite, c'est ce qu'on disait au tout début, quoi. C'est vraiment le truc, je sais pas si tu l'as réalisé vraiment, mais en fait, depuis le début, tu considères que juste que, j'ai envie de dire, le monde est un grand terrain de jeu. C'est un peu bidon, mais il y a un peu ce côté, en fait, tu peux aller chercher des clients n'importe où, parce qu'en vrai, on est tous connectés au même réseau, donc on va chercher des clients n'importe où. On peut voyager n'importe où, on peut vivre n'importe où. Tu t'es baladé un peu partout, j'imagine que tu parles en anglais partout, parce que je pense pas que tu parles coréen ou même finlandais, je sais pas si tu parles finlandais.
Non, j'avais appris un peu, mais le langage, franchement, j'aime beaucoup mes amis finlandais, mais le langage est dégueulasse. J'ai essayé un peu au début, après il y a eu le Covid, les cours ont été arrêtés, mais c'est vraiment affreux, quoi. Et il faut aimer un langage pour l'apprendre, et franchement, le finnois, c'est assez hardcore. Il y a que eux qui parlent ce langage-là, en plus dans le monde, il y a 5 millions de personnes qui le parlent. Et en plus, on peut vite être feignant dans ce genre de pays. Même la Corée du Sud, c'est un peu particulier parce que les gens sont pas très bons en anglais. Mais en Finlande, par exemple, ou les pays du Nord, les gens sont bilingues non-stop, enfin sans problème. Même les caissiers de 50 ans qu'on peut voir dans les supermarchés parlent anglais couramment. Donc,
ouais, j'ai discuté pas mal avec un Écossais qui bosse en Allemagne à Berlin. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'il est là-bas, 4-5 ans, je crois. Et il parle pas allemand, en fait. Il parle en anglais aussi. Donc, et moi, c'est pareil, en fait. J'ai à peu près le même déclic que toi sur... en fait, à partir du moment où on a une connexion Internet où on parle anglais, on peut travailler pour n'importe qui, n'importe quand. Quand j'étais à San Francisco aussi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Et c'est pour ça que je t'invite sur ce podcast, parce que c'est intéressant d'avoir ce déclic-là. Et moi, je l'avais pas du tout eu avant. Pourtant, ça fait 15 ans que je suis développeur. Donc, à l'époque, ça faisait une dizaine d'années que je bossais dans la tech. Je parlais pas très bien anglais, mais j'arrivais à le lire, le comprendre et tout ça. On utilisait des technos qui venaient des US ou d'ailleurs, mais avoir le déclic, en fait je suis français, mais c'est un tout petit bout, et on peut, en fait, à partir du moment où tu fais des produits en ligne, ben tu peux aller tout de suite chercher des gens n'importe où tout le temps. C'est vraiment un truc que toi t'as eu hyper tôt dans ton parcours, en fait. C'est hyper intéressant, je trouve.
Ouais, bah je l'ai eu parce que je me suis retrouvé à San Francisco assez vite aussi, parce qu'avant ça, j'avais pas eu besoin, comme je te disais, de parler forcément anglais ou autre. Bah après, si, en fait, je dis ça, mais dans le jeu vidéo, dans l'e-sport, j'avais une équipe internationale. Donc en fait, je parlais déjà anglais. En réalité, là, je mens un peu parce que oui, je parlais déjà anglais quotidiennement parce que j'avais un joueur de un espagnol, un grec, un lituanien, un polonais, un turc. Donc on était déjà une équipe internationale et donc on parlait assez naturellement. Enfin, on parlait anglais de toute façon. Mais avec l'anglais, évidemment, à couper au couteau des uns et des autres, mais on se comprenait tous. Les seuls qu'on comprenait pas, c'était les Britanniques, évidemment. Avec leur... On n'a jamais eu de Britanniques dans notre... de British dans notre team, et ils pétaient un plomb parce qu'on on se comprenait tous, mais eux, on les comprenait pas. Alors que eux parlent du vrai anglais, mais c'était les seuls qui étaient incompréhensibles. Mais ouais, après, c'est à San Francisco où j'ai eu vraiment ce gros déclic niveau business, parce qu'on a croisé, et puis tu t'en rappelles, des entrepreneurs français qui ont fait des millions de dollars et des succès incroyables, mais qui parlent avec un anglais à couper au couteau vraiment dégueulasse. Et les mecs en ont rien à foutre, quoi. Les types, ils sont là, ils font leur bise, ils signent des deals, ils rencontrent des gens importants. Franchement, leur niveau d'anglais est scandaleux, même inacceptable, je dirais, pour des gens de ce niveau-là. Mais ils en ont rien à foutre, et puis ils font leur bise, rien... et ça les empêche pas d'avancer, quoi. Et là, je me suis dit, attends, putain, si les mecs réussissent en parlant aussi mal et en s'en foutant à ce point-là, c'est que clairement, faut qu'on arrête de s'excuser, parce que ça, c'est le réflexe aussi, quand on parle avec des Américains au début, c'est dire, ah, sorry, I'm French, blablabla, mon accent, alors qu'ils s'en foutent. En réalité, juste, ne t'excuse pas. Parle, communique. Si le mec a pas compris, tu répètes. Si t'as pas compris, tu lui fais répéter. Évidemment, il faut avoir un minimum de compréhension. Mais franchement, il y en a qui font des carrières avec des niveaux d'anglais complètement exécrables et ça passe. Donc là, oui, ça crée un déclic. Mais après, quand on se retrouve en Finlande, ils ont un accent aussi. En Corée du Sud, tout le monde a un accent. Et puis au final, voilà, même quand on croise des Espagnols, des Grecs ou autres qui parlent anglais. Au final, voilà, tout le monde se débrouille, donc faut arrêter de s'excuser, avancer, puis se dire que voilà, on se fait comprendre quand même à peu près partout, sans problème.
T'as dit un truc là sur les jeux vidéo auquel j'avais pas pensé en préparant ce podcast. Peut-être on va faire un petit aparté sur les jeux vidéo et sur ta période World of Tanks. Parce qu'en fait, moi je jouais beaucoup aussi au début, pas loin d'être à ton niveau, en tant que joueur, quand j'ai commencé à coder et à bosser à distance avec des gens, à l'époque en freelance, je trouvais ça hallucinant, parce que je parle de ça, c'était en 2007, 2008, 2009, un truc comme ça, où les gens étaient encore au conf call, donc avec la pieuvre au milieu de la table pour travailler à distance. Hein. C'était horrible. Et à l'époque, on avait déjà Mumble, on avait déjà des solutions de voix IP, TeamSpeak et des trucs comme ça. Il n'y avait pas encore trop de vidéos parce que l'internet était un peu lent à cette époque. Toi, quand tu étais joueur pro, c'était en quelle année? Et du coup, comment est-ce que tu organisais? Parce que c'était du jeu en équipe, donc en fait c'était du travail en équipe, on va dire, à distance. Et tu disais qu'il y avait des nationalités différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'organisais ton... Comment est-ce que vous organisez la stratégie en jeu et tout ça, quels sont les trucs que vous avez mis en place?
Ouais, c'est une bonne question. Et c'est vrai que sur la partie télé, c'est un peu du télétravail finalement, avant l'heure. Et même j'ai commencé beaucoup plus tôt que World of Tanks, parce que World of Tanks, j'ai commencé à jouer, ça devait être en 2012-2013. Mais j'ai commencé à jouer en réseau sur Flight Simulator, bah, à l'époque des avions, avec bah, justement, je volais avec des pilotes de chasse en activité à l'époque, même un mec qui était en Afghanistan, qui me racontait les opérations et qui dépilait les bombes tous les jours, enfin c'était assez choquant à l'époque. Et en fait, sur Flight Simulator, avec TeamSpeak, déjà à l'époque, et c'était en 2006, 2007, je pense, par là. Et donc, la connexion était pourrie, mais on arrivait quand même à faire du vol en formation. Sachant qu'il faut être ultra précis, que là le ping est impardonnable, et donc souvent on voyait les avions se téléporter un peu à droite à gauche, et on enregistrait les vols, et quand on arrivait à avoir une connexion relativement stable, on avait des vols en formation assez incroyables sur Flight Simulator. Donc c'était un peu les débuts, et donc oui, synchroniser, parler, communiquer, se retrouver sur les bons points de la map au bon moment. Donc en fait c'était déjà de la coordination à distance via du vocal finalement. Donc en fait j'ai eu ça assez naturellement, parce qu'à l'époque j'avais 15-16 ans, et donc en fait j'ai toujours finalement entre guillemets travaillé comme ça. Et pareil après sur World of Tanks, là c'était beaucoup plus sérieux pour le coup. Au début je jouais parce que j'étais en stage de fin d'études et je me faisais chier et donc j'avais que ça à foutre à ce moment-là. Et donc je jouais pas mal à World of Tanks, un peu c'est un pote qui m'avait filé le lien. Et j'ai commencé à avoir un bon niveau, je suis rentré dans des équipes. Et ensuite j'ai créé ma propre équipe, j'ai embauché des mecs que j'avais rencontrés à droite à gauche, enfin embauché. J'ai recruté des types, on s'est arrangé pour travailler ensemble. Et là, on travaillait, donc c'était Google Spreadsheet, tout simple, pour mettre un planning d'entraînement, planning de. Donc on avait un onglet qui était le planning d'entraînement que je mettais chaque semaine, avec de telle heure à telle heure, le nom de toutes les personnes qui seraient dispo ou pas dispo. Donc c'était un jeu où il fallait être 7 dans l'équipe, et donc on avait 5 remplaçants en plus, 5 ou 6 remplaçants, ça dépendait des fois, et en fonction des dispos de chacun, parce qu'on avait tous des jobs à côté. Et donc il fallait gérer déjà l'organisation, gérer le projet en gros, hein, entre guillemets, savoir qui s'entraîne quand, comment on fait, sur quoi va porter l'entraînement du jour. Et donc on faisait ça de manière assez sérieuse. Et puis j'avais aussi un onglet sur les strats, donc avec un screenshot de toutes les maps, avec les placements des différents tanks en initial, avec les, enfin, au début de la bataille, avec les rotations qu'il fallait faire en fonction des éléments déclencheurs pendant la bataille, et donc de vraiment travailler toutes les compositions, les différents tanks qu'il nous fallait, parce qu'il y a différents types de tanks, etc. Et en fonction des maps, en fonction de si on attaque, si on défend, y a plein de strats qu'on peut mettre en place pour déclencher l'assaut, pour contre-attaquer, etc. Donc de tout préparer avec des visuels et de faire vraiment des plans d'attaque assez propres. Et ensuite de s'entraîner pour pour performer dessus, connaître tous les temps de rechargement des tanks, les différents buissons où on peut se cacher sur les différentes maps, les buissons qu'on peut blindshotter, ça veut dire quand quelqu'un est caché, qu'on sache à peu près les buissons les plus importants, et si on se fait détecter, on sait qu'il y en a un qui doit être planqué là-dedans, et donc de s'entraîner à synchroniser nos tirs et de faire des salves à l'aveugle et d'exploser les types. Et donc c'était quand même, on est allé assez loin, hein. Franchement, on est allé très très loin dans le niveau d'entraînement, et c'était finalement de la gestion de projet complète, parce que c'était avec des process de recrutement de joueurs régulièrement, parce qu'il fallait une rotation. Quand les mecs étaient moins bons ou faisaient autre chose dans leur vie, finissaient leurs études, commençaient à bosser, ou les mecs qui avaient une copine et qui du coup n'avaient plus de vie à ce moment-là et partaient du monde du jeu vidéo, et donc il fallait remplacer tous ces trucs-là au fur et à mesure, et donc vraiment gérer une équipe quelque part.
Ouais, c'est intéressant parce que du coup t'as à la fois de la gestion de projet, t'as à la fois j'imagine aussi des répétitions dans le jeu où tu vas avec le mec pour dire là il faut se mettre là, il faut se mettre là et tout ça.
Ouais, exactement.
Et t'as aussi tout ce qui est recrutement. En fait, c'est un truc dont on parle beaucoup sur ce podcast. Comment est-ce qu'on fait pour recruter des gens en télétravail, en full remote et tout ça? Et il y a beaucoup de gens pour qui ça paraît un peu insurmontable de recruter des gens qu'ils ont jamais vus et tout ça. Alors que quand tu bosses pour des jeux vidéo, bon, les enjeux sont pas forcément les mêmes, même si à haut niveau il y a quand même des enjeux. Mais c'est des gens qui sont pas payés pour le faire ou très peu. Qui sont bénévoles, qui font ça sur leur temps libre le soir et qui donc du coup ont des aléas et tout. Donc j'imagine que le processus de recrutement et ça doit être.
Là c'est des forums, c'est assez marrant parce que ça passait par. Il y avait un forum World of Tanks dans lequel on pouvait poster des annonces. Après c'était beaucoup, il y a des clans et puis après c'était le bouche à oreille beaucoup. Parce que quand on commence à avoir un très gros niveau, on a des. Il y avait un système qui s'appelait le WN8, c'est en gros un résumé de nos stats. Et après il y a des couleurs de joueurs, violet c'est les super unicom, les super bons, etc. Et après il y a différents types de couleurs. Et donc après quand on passe dans les joueurs violets entre guillemets, on est tous entre bons et tout le monde se connaît. Parce qu'on est dans les meilleurs clans, dans les meilleurs trucs, et donc beaucoup de bouche à oreille. Mais après le process était on ramène les mecs qui ont l'air chaud, qui sont déjà recommandés par certains joueurs en qui on a confiance, on les ramène, on fait un test sur la map, donc 1v1, 2v2, et ensuite très vite on va lancer des jeux, des parties où on va les intégrer. Donc on va avoir notre équipe moins un joueur, et donc on va mettre le nouveau en remplacement, et ensuite on va le briefer rapidement au début de la bataille. On va pas faire des strats très complexes, mais déjà on va voir ses placements, est-ce que le mec joue bien, etc. Et c'est assez fou parce qu'en lui faisant faire une tâche aux côtés du reste de l'équipe, on voit très très vite qui est bon, qui est pas bon. Donc typiquement, les joueurs excellents en termes de stats, c'était des stat padders, on les appelait, parce que les mecs restent en fond de map et snipe toute la game pour faire des dommages. Mais ceux-là, en termes de teamplay, sont vraiment nuls à chier. Et donc il y a plein de joueurs comme ça qui ont des stats excellentes, des mecs qui sur le papier sont brillants, mais quand on les met en travail d'équipe, on se rend compte que les types sont là pour faire leurs stats dans leur coin et sont en fait inutiles. Donc ça veut dire quand il va falloir prendre un obus pour couvrir un ami ou quoi, les mecs sont pas là. Quand il va falloir faire les mouvements ensemble, ils sont pas là. Niveau communication, très important. La communication, ça c'était le critère numéro 1, je pense. En numéro 1, c'était communication, donc les mecs ils parlent pas, donc on sait pas ce qu'ils font. Donc on est en train de faire un assaut, tout le monde dit je suis là, j'ai rien, c'est bon, je suis prêt, machin. Tout le monde fait un peu son truc, donc parle de manière propre, et il y a un type qu'on n'entend pas. Et ça, en fait, c'est hyper stressant dans une game, parce que déjà on est hyper concentré sur ce qui se passe, parce qu'il faut réagir vite à haut niveau. Et c'est hyper stressant parce qu'on a un mec, on a un blanc en fait dans notre visualisation mentale de ce qui se passe. On a un espèce de coin d'ombre où on se dit attends, qu'est-ce qu'il est en train de branler? Et donc ça casse en fait. Un joueur qui communique mal ou qui communique pas, ça détruit complètement le teamplay, ça fout vraiment la pression à tout le monde, et c'est assez horrible. Et ça, en fait, on le retrouve après dans le boulot, ou typiquement sur Slack ou dans une équipe ou machin. Quand il y a des mecs qui disent pas ce qu'ils sont en train de faire et qui parlent pas depuis une semaine ou deux, Au bout d'un moment, on se dit, attends, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça fout un espèce de malaise bizarre, inexplicable, et c'est rare que quelqu'un aille voir cette personne en disant, bon, attends, mec, qu'est-ce que tu fais concrètement? Ou alors, soit c'est trop violent comme approche, soit elle ne se fait pas et ça fait pourrir des situations. Donc, c'est vrai que la communication, c'est assez marrant parce que je retrouve ça aujourd'hui, où le manque de communication, finalement, ça fait dégénérer très vite le travail d'équipe.
En fait, c'est marrant parce que là, ce que tu racontes avec World of Tanks, moi, dans ma tête, tout de suite, j'ai fait le parallèle avec le recrutement de développeurs, parce que c'est probablement, c'est de là que je viens, donc c'est ce que je connais mieux. Où en fait, effectivement, t'as des mecs qui se vantent d'être super bons techniquement, les fameux ninjas et tout, qui sont, du coup, qui, quand ils sont recrutés sur les tests techniques, sont hyper bons parce que les mecs, ils sont vraiment très très forts et tout ça. Et par contre, si tu les mets en équipe, ça devient vite l'horreur, parce qu'en fait, ils communiquent pas ou très mal. Ils prennent les gens de haut, ils considèrent que les autres sont pas assez bons pour travailler avec eux, donc ils font leur truc tout seuls. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui sont complètement incapables de bosser en équipe, et au final, ce qu'ils produisent est bien moins bon que ce que peut produire une équipe de 3 personnes qui communiquent bien, même si leur niveau technique est moins fort. Et du coup, c'est intéressant de dire, finalement, plutôt que de recruter des gens avec du test technique bourrin pour voir si techniquement ils sont bons, les prendre d'une façon ou d'une autre, sur quelques jours, quelques semaines, travailler avec d'autres gens tout de suite en immersion. En fait, et quand on est en remote, c'est encore plus important, je pense. Et comme ça, tu testes tout de suite là, dans la vraie vie, et pas juste des tests un peu hors sol où tu fais du triage de tableau, de l'algorithmique bidon dont t'as jamais, presque jamais besoin. Ok, on va fermer la parenthèse World of Tanks. Du coup, on a parlé de San Francisco, comment t'as commencé vraiment très entrepreneur. Après, t'es parti en Finlande, où là, pour le coup, t'étais salarié. Et depuis la Finlande, t'es en freelance, et là, t'es vraiment parti encore plus dans le délire digital nomade, parce que en Finlande, t'es resté 2 ans. Et maintenant, là, tu bouges vraiment beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que t'as changé, pourquoi est-ce que t'as choisi ce mode de vie-là? Et après, on verra un peu comment est-ce que t'organises ta vie, du coup, à la fois professionnelle et perso.
Ouais. Alors, la Finlande, ouais, c'est vrai que j'étais rentré dans un modèle un peu hybride où j'avais des parts, j'étais censé rentrer en tant que cofondateur, mais j'avais mal négocié au début. Donc, c'était très chelou, en fait. Et ça fait que j'étais un espèce de salarié plus-plus. Mais où finalement, en fait, j'étais assez frustré du fait de pas avoir plus de responsabilités. Enfin, j'en avais, mais de pas pouvoir impacter beaucoup plus sur les décisions. Je fais le lien avec le digital nomade derrière, c'est que les Finlandais sont assez froids. Typiquement, je trouvais, enfin, je me suis fait quelques bons potes, mais c'est des gens assez spéciaux là-bas, on va dire, qui sont pas forcément dans le moule Finlande-Finlande. Mais le milieu finlandais de base, et encore plus ingénieur finlandais, milieu dans lequel j'étais, c'est des mecs, ils finissent leur journée à 16h, 17h grand max, et ils vont chez eux et basta, quoi. Et ils vont pas t'inviter le week-end ou te dire, ah ben tu viens d'arriver, viens on fait une soirée ensemble, machin. Donc ils sont un peu chacun renfermés. Ça m'a gonflé ce truc-là. Donc après j'avais des potes français, etc. Mais ce fait d'être dans un pays froid déjà par le tempérament et par la météo l'hiver, j'ai eu envie en fait de repartir dans des trucs plus chauds, être avec des amis, aller dans des endroits qui me plaisent vraiment, et de vraiment aller dans des endroits où il y a des fruits, des légumes, parce que la Finlande, enfin c'est con, hein, mais aller faire son marché en Finlande, c'est catastrophique. Hein, autant j'avais trouvé une permaculture qui marchait que l'été, hein, du coup, d'un mec de Floride qui s'est installé en Finlande, mais sinon, trouver des produits frais locaux sur place, c'était impossible. Donc, tempérament froid, climat froid, produits pas terribles, tout ça, ça fait que je me suis dit, bon, je me casse, et maintenant, je vais vivre dans des endroits qui me plaisent vraiment, quoi. Et là, je me suis retrouvé avec, finalement, 2 amis qui étaient un peu dans cette démarche-là, qui, eux, un qui a été à Rennes et l'autre à Paris, qui en avait ras-le-bol aussi, et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est barré en même temps, quasiment, en mars 2021, et on s'est retrouvé à louer des villas avec piscine, des vues magnifiques, etc. Et on s'est retrouvé dans les îles Canaries, puis on a fait plusieurs îles, puis on s'est retrouvé au Portugal, en Grèce, et donc on a bougé comme ça, et on avait des amis qui venaient de Paris, qui venaient d'un peu d'à droite à gauche, qui venaient nous rendre visite une semaine ou deux par-ci par-là. Et donc finalement, dans un rythme où on travaillait la journée pas mal, et ensuite on avait beaucoup de temps, de soirées, et comme ça d'interactions sociales, et donc on avait tout le temps du monde, et il y avait une espèce d'effervescence, et c'était vraiment très très cool, là pour le coup on a passé 9 mois comme ça à fond, et donc on a beaucoup bougé, et c'était cool d'être avec des gens qui étaient, avec des amis qui eux étaient sur la même démarche, finalement à ce moment-là. Donc ça a permis de faire la transition, mais en étant avec des gens voilà, au quotidien, et de pas être solo digital nomade à l'extérieur.
Et du coup là, à l'époque t'étais freelance, c'est ça?
Ouais, à l'époque pas encore, non. À l'époque quand je suis parti de Finlande, bah, j'avais aucune option. Donc je suis parti, il devait me rester 3000 balles sur mon compte maximum. Et donc moi ça me paraissait déjà bien quoi. Je me suis dit attends, là j'ai 2 mois devant moi en gros en termes de cash flow. Franchement en 2 mois je peux remonter un truc, y a pas de problème. Donc moi j'étais assez serein et j'ai eu la chance d'avoir bah c'est toujours du bouche à oreille finalement. À chaque fois que j'ai dit à des potes je m'en vais, c'est le réseau et à chaque fois je me retrouve avec des opportunités à droite à gauche de me dire attends on est en train de lancer ça ou tiens j'ai tel client qui a envie qui a une mission là-dessus ou autre. Et là, c'était plutôt des amis qui lançaient un gros projet, donc qui avaient les fonds pour investir sur un gros projet de vente de formation. Et donc, je me suis mis avec eux, j'ai ramené un autre ami qui voyageait avec moi à ce moment-là. Et donc, on était 4 au départ, fondateurs. Et donc, en partant de Finlande, j'ai bossé là-dessus depuis l'étranger. Et on est passé de 4 à 90 personnes en 4 mois. Et on est passé de 0 à 1,5 million de chiffre d'affaires mensuel en 4 mois aussi. Donc, on a tout explosé de 4 personnes au début jusqu'à ça. Et parce que là... En partant de Finlande, j'ai aussi tiré le trait sur un truc fondamental, c'était le délire startup, de me dire je vais créer un truc qui va changer le monde, qui va être un énorme produit, qui va toucher des millions de users, et ensuite revendre ça ou faire une IPO, machin. Enfin, tout ce délire, cette quête un peu christique de la startup, qui est je me sacrifie toute ma vie pour espérer un espèce de paradis plus tard. Bah ça j'ai dit non et en partant je me suis dit là je fais du fric clairement, là je veux bien gagner ma vie, je veux voyager, je veux kiffer et donc et c'est con hein, mais c'est ce qu'on a fait, c'est que focus parce que je me dis avec toutes les compétences qu'on a, moi, mes potes, etc., franchement quand je vois des débiles faire du dropshipping et gagner des fortunes là-dessus, je me suis dit non mais là franchement on est scandaleux, c'est inadmissible de pas réussir à faire des bons business. Et donc là, bah, c'est ce qu'on a fait. On a fait les bourrins et c'était beaucoup de travail, beaucoup de stress au début. Recruter des commerciaux, des formateurs, des machins, mettre en place les campagnes de pub Facebook énormes. Mais du coup, on a gagné beaucoup d'argent avec ça et ça nous a permis de voyager, de kiffer. Alors, on n'a pas trop profité des endroits sur place parce qu'en réalité, bah, on bossait beaucoup. Hein. Donc c'était un peu le piège. On était dans des endroits paradisiaques, mais on travaillait énormément. Donc, on n'a pas fait de kitesurf, on n'a pas fait de plongée sous-marine, on n'a pas fait de randonnée, de machin. Et quand on croisait des gens qui me disaient, ah, vous avez été voir tel monument, tel truc, bah non frérot, on a du cash à faire, donc
c'est... Du coup, c'était carrément ma question, parce que là tu parles beaucoup de business et tout ça, mais dans la démarche digital nomade il y a quand même une grosse démarche perso aussi. Tu disais déjà que tu voyageais à plusieurs, ce qui est déjà intéressant parce que ouais. Moi j'avais l'impression que des fois t'es un peu solitaire quand tu fais ça, ouais. Et du coup comment est-ce que, alors j'ai un peu la réponse, j'ai l'impression que t'as pas réussi, mais comment est-ce que t'as réussi à structurer tout ça? Est-ce que t'as réussi avec le temps peut-être? Parce qu'on a l'impression là du coup que sur les 9 mois ou première année t'as vraiment tout cramé en mode je travaille tout le temps, orienté business quoi.
Ouais, c'était beaucoup de travail. Alors c'est toujours un peu ouais, il y avait quand même beaucoup de travail déjà quotidien. Après on parle pas de 15 heures par jour à faire que de la production non-stop, mais par contre le fait d'être avec des potes qui bossent eux aussi sur leurs différents projets ou sur le même projet que moi avec Camille, bah du coup en fait même quand on n'est pas en train de faire des tâches de production à proprement parler, qu'on est en train de déjeuner ou quoi, bah on parle business. Et quand on sort boire un verre le soir, bah on parle business, on parle de ce qu'on va faire le lendemain, de ce qu'on va faire en rentrant. Ah tiens, j'ai une idée, bah tiens, vas-y, sors vite l'ordi, on teste le truc. Et donc en fait, c'est non-stop ça plus les calls, les machins. Donc en fait, on est tout le temps dans ce rythme-là et c'est vrai que même le week-end quand on se prend du temps libre pour aller faire des trucs à droite à gauche, en fait on a tout le temps l'espèce d'ombre mentale, enfin l'espèce de brouillard mental du business, et on sait, là je suis pas en train de bosser, merde, j'ai des trucs à faire, et on voit déjà les tâches s'accumuler dans sa tête, et donc en fait on n'est jamais libre en se disant c'est pas une vie d'employé quoi, où le vendredi soir à 16h tout le monde regarde sa montre en se disant ah bah c'est cool, je vais aller bien me décompresser ce week-end. Donc non, c'est tout le temps l'espèce de spectre de ce qui reste à faire, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qui merde, de ce qu'il faut résoudre, des problèmes auxquels on n'a pas encore de solution. Et donc il y a tout le temps ça sur le, donc ouais, il y a une espèce de brouillard mental là-dessus. Ça c'est clair.
Qui est pire quand t'es à plusieurs, non? C'est pas pire quand t'es à tout.
Bah en fait, c'est qu'on parle tout le temps de ça. On parle tout le temps de ça. Et puis quand on parle pas de, à l'époque, quand on parlait pas de notre business proprement parler, mais on parlait du business des autres qui étaient avec nous. Et donc, et après, ah tiens, tu devrais parler à tel pote, machin. J'ai rencontré un mec à tel endroit. Tu devrais lui parler parce qu'il bosse sur un truc intéressant. Et en fait, t'es tout le temps dans cet esprit-là et tu fais que ça. Mais après, l'avantage c'est que tu progresses parce que du coup, t'es. Bah c'est comme sur World of Tanks, hein, quand je faisais que ça toute la journée avec que des gens qui font que ça, et bah tu deviens très bon, hein, c'est con, hein. Mais quand tu fais que du business avec des gens qui font que du business, et bah tu trouves plein d'astuces, plein de trucs, tu deviens très très bon, etc. Et là, ouais, c'est vrai, et c'est ce qui m'a finalement frustré, comme tu me disais, est-ce que j'ai trouvé un rythme avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, j'en avais un peu ras-le-bol, il y avait plein de choses que je voulais faire à côté, et fin 2021, on était en Grèce pendant l'automne. Et là, on a lancé un projet NFT avec l'argent qu'on avait gagné. On avait marre de faire de la vente de formation. On a lancé un projet NFT pour rentrer dans les cryptos en faisant quelque chose. On a investi pas mal d'argent parce qu'on y a été, bah, évidemment, all-in comme des malades.
Donc, la meilleure période, d'ailleurs.
Mauvaise idée. Ouais, pire timing. Bref, ça a pas très bien marché. Ça a pas non plus été un échec complet, mais ça a pas hyper bien fonctionné. C'était assez frustrant. Et puis là, en fait, on était complètement... Et là, sur le projet NFT... Je pense que j'ai travaillé encore plus que sur les business d'avant, parce que là, il y avait vraiment, j'avais embauché des designers, remonté une équipe from scratch. D'ailleurs, c'est un truc, je pense, qui vient de World of Tank ou de la junior entreprise, c'est que recruter des gens, maintenant, c'est devenu une commodité. Enfin, j'ai pas du tout de stress. Pour moi, c'est zéro problème, quoi. C'est même, je trouve ça marrant de rencontrer des nouvelles personnes, de discuter avec eux, de voir ce qu'ils vont faire, comment ils vont pouvoir nous aider sur les tâches dont on a besoin. Et donc là, pareil, on a recruté une quinzaine de personnes en un mois. On a lancé le truc, grossi une communauté à 60 000 membres assez rapidement. Donc on s'est, et là, on s'est vraiment brûlé parce que on a fait une première vente qui a foiré. On en a relancé une deuxième qui a pas forcément beaucoup mieux marché. Mais au total, on est retombé un peu sur nos pattes. Mais globalement, là, on était rincés. On en avait marre d'être ensemble aussi, de vivre avec les potes, d'être tout le temps les uns avec les autres, etc. Et donc là, j'ai dit, bon, décembre, c'est Noël, je rentre en France. Et après, à partir de janvier 2022, donc là, en début d'année dernier, je me suis dit, là, je vais au Portugal solo, je vis avec personne, je veux personne dans mes pattes, je vais prendre un appart tranquille. Et l'autre frustration que j'avais, c'était justement quand on était dans notre bulle avec nos potes, c'est que je rencontrais pas forcément de gens d'extérieur. Et j'avais envie, parce que j'ai toujours eu cette facilité-là en voyageant à droite à gauche, de finalement rencontrer des gens, que ce soit à des meet-up, dans des bars, dans des trucs, et de me faire des amis sur place. Et là, j'ai eu cette frustration, c'est que je me suis dit, putain, mais j'ai rencontré personne, en fait. Là, depuis quasiment un an qu'on voyage tous ensemble, j'ai pas fait de rencontre intéressante à l'extérieur de notre petite bulle. Et donc, j'avais envie aussi de ça, de croiser plus de personnes à droite à gauche.
C'est un peu le reproche, enfin, en tout cas, un des points négatifs qu'on a l'impression de voir entre les lignes quand on lit des expériences de digital nomade. Souvent, on a l'impression que... Alors, s'ils voyagent à plusieurs, clairement, ils restent entre eux. Et même s'ils voyagent pas à plusieurs, ils vont dans des halls, dans des hubs, de digital nomades. Ouais. Donc, en fait, ils rencontrent d'autres gens qui sont eux-mêmes digital nomades et ça fait une espèce de petite bulle, micro-écosystème qui tourne entre eux, quoi.
Bah, après, ça, c'est pas forcément mal, plus mal, je dirais. Parce que quand tu rencontres des mecs, même digital nomades, mais qui sont, je sais pas, allemands, espagnols, italiens ou autres, mais qui comprennent aussi les produits sur lesquels tu bosses, ce qu'ils font, etc. Qui font du sport en général, ils font pas mal d'activités d'extérieur, ils gagnent bien leur vie. Donc en fait, tu te retrouves dans un espèce de monde de gens similaires. Parce que ce mythe de dire ouais, je vais aller parler avec les locaux, etc. Les locaux, ils boivent leur bière, ils travaillent à l'usine la journée. Ok, t'es marrant. Enfin, je caricature un peu, mais au bout d'un moment. Faut arrêter de sacraliser, je pense, ce mythe de dire je me suis fait des potes sur place, le mec c'est un pêcheur, l'autre c'est un fermier. Ok, mais franchement, après avoir passé une journée à lui demander sur quoi il bossait, c'est hyper intéressant, sans problème. Mais tu te fais pas des potes à tout jamais, parce que déjà, faire du WhatsApp, des Zooms, et puis se dire, ah tiens, on se retrouve à Bali le mois prochain, ou on se retrouve machin, bah non, ça existe pas. Donc, sauf si tu restes sur place pendant des années. Mais je trouve que c'est déjà se faire des potes d'autres nationalités ou même des Français aussi. Mais ça, j'en ai pas vu beaucoup pour le coup dans les différents endroits où on a été. Ouais, assez peu finalement dans les coins où que ce soit Portugal, Grèce, îles Canaries, etc. Mais après des étrangers, ouais, et ça, c'est toujours hyper enrichissant, je trouve, et c'est assez cool. Et encore une fois, enfin, faut pas se cacher, t'évolues avec des gens de ton milieu, sinon la différence elle est trop énorme. Tu sors au resto ou boire un verre. S'il y en a un qui est énormément en galère et pour qui ça coûte, c'est hors de prix, ça va vite foutre un stress au bout d'un moment. Donc, on évolue. Je dis pas que tout le monde est millionnaire hein, dans ce milieu. Au contraire, enfin, les gens gagnent. Plutôt les digital nomades, c'est des gens qui structurent leur vie et leurs revenus en fonction de la vie qu'ils ont envie d'avoir. Donc, c'est pas des gens qui vont forcément tous avoir envie de gagner énormément d'argent comme on l'a fait avec à l'époque avec mes potes et ce qui est assez qui te brûle. Hein, enfin, on finit en espèce de demi burn-out. Dégueulasse. Donc c'est plutôt des gens qui ont envie d'apprécier la vie, de bien gagner leur vie, mais sans forcément devenir milliardaire. Et donc voilà, d'être dans une espèce de démarche cohérente avec ces gens-là, je trouve pas que ce soit si mauvais que ça, quoi.
Du coup, tu disais que quand t'as été au Portugal, t'as voulu y aller solo parce que t'avais fait un espèce de burn-out, on va dire un demi-burn-out, cramé beaucoup d'énergie et de temps et tout ça. À vivre à plusieurs sur un truc à barbecue business tout le temps. Est-ce que t'as réussi à structurer un peu plus ta vie? Est-ce que t'as réussi du coup à faire des loisirs et tout ça et comment t'as fait du coup? Qu'est-ce que t'as changé?
Bah après en arrivant au Portugal, je me suis dit bon là je vais me laisser du temps pour faire d'autres choses. Et finalement, je me suis retrouvé, parce que j'ai dit à des potes, à deux, trois potes, que j'arrêtais l'émission, que je prenais un peu de temps pour moi. Et puis là, je me suis retrouvé en faisant un call, un pote qui m'a dit « Ah bah tiens, un tel veut lancer un projet NFT, ils ont envie de, d'avoir ton feedback, est-ce que tu peux prendre le call ?» Et je m'étais promis de pas prendre de call pendant le mois de janvier. Je me suis dit « Bon, allez, c'est un pote, vas-y, je le prends, je fais un partage de feedback. » J'avais encore la haine, franchement, du projet qui avait foiré et de tout ce qui avait été mal fait. Et je m'en voulais encore sur des trucs, j'en voulais aussi à l'équipe, enfin, il y a plein de trucs qui allaient pas. Et là, je prends ce call-là et finalement, je me retrouve un peu de fil en aiguille, engrainé dans le truc et je me retrouve à faire du freelance finalement. Pour aider une boîte à relancer à son propre projet NFT. Et donc là, je me retrouve aussi dans ce truc où, au début, je me suis dit, bon, ça va être l'occasion d'apprendre, justement, comme tu dis, à vivre en mode boulot, équilibre, etc. Et en fait, je me suis assez brûlé aussi les deux premiers mois où j'ai pas mal bossé parce que je voulais faire mes preuves aussi. Et j'avais quand même cette revanche à prendre en me disant, bon, j'ai foiré un lancement, faut que j'en fasse un deuxième. Et donc, j'ai beaucoup travaillé les deux premiers mois. Et ensuite, le projet, il y a eu 12 000 changements de direction en fonction du marché, qui ont été en bear market, donc c'était difficile. Tu testes plein d'actions qui marchaient très bien deux mois avant et qui d'un coup ne marchaient plus du tout. Et donc, en fait, il y avait des choses à réinventer, à retrouver. Enfin, et c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Et finalement, ça a été, j'étais quand même assez orienté boulot encore cette période-là. Par contre, j'ai pris le temps, c'est vrai, de sortir les week-ends notamment, d'aller rencontrer, même les week-ends en fait, quand on lance un projet, une communauté NFT, bah, la communauté, le samedi, dimanche, bah, c'est là où elle passe le plus de temps en général. C'est le week-end, donc elle est sur le truc, donc on peut pas non plus dire le week-end, il n'y a personne. Mais malgré ça, voilà, je prenais du temps, j'ai rencontré des gens sur place, j'ai des amis que j'avais pas vu depuis longtemps qui, eux, sont installés au Portugal à peu près au même moment, donc ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. Mais j'avais quand même ce spectre du travail encore vachement dessus. Et la différence, c'est que j'ai commencé à faire pas mal de sport aussi à ce moment-là. C'était assez cool. Donc ouais, j'ai réussi petit à petit à me construire un meilleur équilibre, on va dire, à rencontrer plus de gens, à travailler dans des cafés, etc., à aller voir dans des meet-up, des trucs comme ça, où j'ai rencontré des gens aussi. Donc ouais, j'ai réussi à corriger ce problème d'être resté trop dans ma bulle l'année précédente. Et là, j'ai fait beaucoup plus de rencontres, clairement.
Et du coup, maintenant, c'est mieux ou pas ? Est-ce que tu t'es encore amélioré depuis le Portugal ?
Maintenant, depuis le Portugal, bah après j'étais en France là pendant deux mois récemment pour l'été, donc j'ai vu pas mal de potes, de famille, etc. Donc j'ai beaucoup vu de personnes. Et donc là, je suis revenu en Martinique en me disant bon là j'ai envie de faire un break encore. J'ai vu trop de gens et je vais me reconcentrer un peu sur le boulot et sur des activités à côté. Donc là c'est plutôt le sport, la plage et le travail. Mais c'est vrai que le travail me prend encore trop de temps par rapport à ce que je pensais. Donc j'essaye, je suis beaucoup mieux cadré hein, clairement par rapport à des époques chaotiques où c'était le travail non-stop, c'était du n'importe quoi, ou des époques où c'était un mélange de travail, de sorties, des trucs un peu ou pas vraiment de rythme. Là j'ai un rythme beaucoup plus carré aujourd'hui, clairement c'est ce que j'ai appris. Donc ça veut dire sport le matin, après du boulot jusqu'à 13h à peu près, un peu de travail l'après-midi, et ensuite sortir à la plage ou autre, faire des trucs. Donc voilà, beaucoup plus systématique.
Ouais, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de ça, de la limite entre le travail et le pro et le perso sur ce podcast quand t'es en full remote et tout ça. Et ce que tu vis là, je pense, c'est probablement un des pires trucs, c'est-à-dire à la fois être soit freelance, soit entrepreneur, ou déjà de base, quand t'as des bureaux, c'est difficile de couper, de pas faire des grosses journées et tout ça. Et là, en plus, t'es en remote par défaut parce que là, tu bosses pour une boîte qui est en Suisse. Et c'est un des côtés sombres, je pense, du digital nomadisme, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est un mode de vie que tu veux continuer encore ? Est-ce que tu veux te poser ? Est-ce qu'au final tu t'y retrouves ? Comment tu vois le truc ?
Non, franchement, je m'y retrouve. Après, c'est vrai que j'ai réalisé un truc tout bête, hein, mais c'est vrai que ça met un petit stress à chaque fois. Parce qu'au début, on bougeait tous les mois. Donc, tous les mois, on changeait de place. Deal, ou ça veut dire tous les mois, c'est avion ou transport pour bouger d'un endroit à l'autre. Et en fait, c'est relou parce que ça veut dire que ça prend de la charge mentale toute conne, hein, de devoir trouver un endroit, le louer, contacter la personne, trouver les billets, organiser le trajet, rendre l'endroit qu'on a loué nickel, avec juste refaire un ménage, etc. Donc à chaque fois, ça met des transitions comme ça. Et c'est vrai que tous les mois, quand on est dans le travail à fond et qu'on doit se taper ça à chaque fois, ça tombe toujours au mauvais moment, donc c'est relou. Et donc là, maintenant, je fais moins ça. Donc, je reste sur des périodes de 2 à 3 mois. C'est déjà plus adapté, on va dire. Mais Mais là, non, ça me fait du bien. C'est vrai que sur la Martinique, pour le coup, alors différence avec le Portugal, par exemple, Portugal, niveau crypto, Web3, et puis communauté entrepreneur, etc., il se passe énormément de choses, il y a 12 000 meet-up, on rencontre des gens, on sort dans les bars, etc., on peut en parler sans problème. Là, la Martinique, ça a l'air quand même plus intimiste, quoi, si je devais le résumer comme ça. C'est-à-dire que c'est moins ambiance, boulot, etc. Là, j'ai pas fait énormément de rencontres, mais j'ai pas non plus cherché parce que j'ai eu, j'avoue que ça m'a un peu, là, l'été, avec, j'ai vu des gens tout le temps, j'ai beaucoup bougé, etc. Donc là, j'étais plutôt tranquille à me faire mon rythme, pépère, profiter du soleil, de la plage. Donc là, j'avais vraiment envie de me recentrer là-dessus. Mais je pense que je vais continuer, parce que si je voulais voir des gens tout le temps, avoir des potes, faire des soirées de malade, etc., bah, je m'installe à Paris, hein, finalement, c'est le plus simple. Je connais plein de gens, et tu rencontres des gens tout le temps. Donc, d'une soirée à l'autre, avec le réseau de chacun. Donc ça va très très vite. Mais du coup, non, c'est pas forcément, parce que ça, je l'ai vécu, c'est pas forcément un truc qui me... C'est cool, mais voilà, j'avais envie de voir autre chose. Et là, du coup, les prochaines étapes, bah, je pense que je m'installer, je dirais pas ça comme ça, mais ouais, j'ai envie d'aller en Amérique du Sud, dans des endroits, bah, genre Buenos Aires, en Argentine, où il se passe beaucoup de choses niveau crypto, où l'État est déjà là-dedans, il y a un gros taux d'adoption, et donc où je vois qu'il y a beaucoup de meet-up, beaucoup de coworking space intéressants, où il y a des événements, il se passe des choses, parce que le coworking space, c'est con, hein, mais quand on arrive dans un nouvel endroit, si le coworking space est bon, et qu'il y a les mecs bossent sur des vrais trucs, et qu'il y a des events après, tout simple, hein, mais boire un coup le soir, et puis un mec présente ce qu'il fait, en fait, ça crée des relations immédiatement. Et puis les gens sur place qu'on rencontre, il y en a qui sont là depuis longtemps parfois, et donc qui vont nous présenter d'autres gens, qui vont nous montrer les endroits à visiter en ville, et donc c'est toujours un très très bon point d'entrée quand on arrive pour se faire des relations très vite, avec des gens accueillants, qui parlent anglais, qui... Donc voilà, et là c'est ce qui manque, je dirais, en Martinique pour le coup, c'est qu'on en a fait, tu m'as montré quelques endroits, d'ailleurs merci, heureusement que t'es là, mais c'est vrai que t'as pas la même énergie, t'as pas cette vibe de putain ça bouge à fond, faut y aller. Après, on peut le créer, hein, dans les endroits où on va, mais c'est vrai, quand on arrive et que c'est déjà en place, c'est déjà cool. Mais je suis pas non plus venu pour ça, forcément. Là, je suis vraiment venu pour faire de la plongée sous-marine, bosser tranquillement, et puis passer du temps sur d'autres projets.
Et du coup, ton client actuel, là, qui est donc en Suisse, ça lui pose pas de problème que tu sois en Martinique, que tu ailles en Amérique du Sud après ? Le décalage horaire les embête pas, ils s'en foutent ? C'est parce que c'est Web3, tu crois ou...
Alors, le décalage horaire, moi, il m'a embêté, parce que je me suis tapé des calls à 4h du matin les 3 premières semaines. Après, j'ai craqué, donc j'ai demandé à bouger, donc c'est un peu chiant, parce que bah, du coup, j'ai demandé... Bah, ça fait qu'il y a une dizaine de personnes ont dû modifier leur agenda, mais c'était ça où j'arrêtais, de toute façon. Mais là, je suis à une étape où, en fait, c'est pas forcément... En fait, si la personne pour qui je bosse est pas forcément contente, elle me dit bah non c'est pas possible, faut pas que tu sois loin, bah je lui dis bah écoute merci au revoir, j'irai trouver un autre client. Donc au final, et puis je pense que les mentalités ont assez évolué, j'ai eu aucune réflexion, franchement ils ont été très cool, ils m'ont laissé bouger mon horaire sans problème, ça concernait 10 personnes et que ça fait chier parce que t'as les mecs, ils sont dans leur fonds suisse machin, c'est des gens sérieux etc, mais non franchement ils sont assez chill et aujourd'hui il y a quand même tellement de travail remote, tu bosses tellement avec des gens à droite à gauche qu'une boîte qui aujourd'hui me dirait ah non tu peux pas bosser d'où tu veux machin, je trouverais ça tellement ringard, bête et ridicule, en fait ça en dirait tellement long sur leur culture que je me dirais, mais attends, mais c'est nul, enfin, mais il faut surtout pas bosser avec ces gens-là, quoi. Je leur dirais même merci de me prévenir que vous êtes aussi bidon, parce que franchement, j'ai pas envie de perdre de temps avec des gens comme ça.
En fait, moi, je dépile pas mal d'offres d'emploi là pour Remote FR. Toutes les semaines, je vais chercher des offres d'emploi 100% remote, et des offres françaises et des offres internationales. Et en fait, il y a beaucoup d'offres qui sont dans Web3. Et j'ai l'impression que dans le Web3, par défaut, c'est full remote. C'est ce que tu racontes, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en fout d'où tu es, de ce que tu fais, du moment que tu bosses. Et le remote est vraiment par défaut sur le Web3. Pas encore dans le Web2. Il y a beaucoup de boîtes. Web2, même des grosses boîtes, qui te disent full remote, ok, mais que si t'es aux US ou que si t'es sur le fuseau horaire européen, tu vois, il y a encore beaucoup, beaucoup de blocages quand même. On le voit aussi sur ce podcast. Beaucoup de gens qui disent, moi, je suis ok pour du remote, voire même du full remote, mais ça commence à devenir pas beaucoup de gens. Mais sur du full remote avec du décalage horaire, ça commence à devenir assez restreint. Mais ouais. moins dans le Web3, je pense. Ok, écoute, Mehdi, on arrive à la fin du podcast. Je pose toujours la même question à la fin du podcast et je la change un peu en fonction des invités. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer en digital nomade ?
Bah, j'aime pas vraiment donner des conseils parce que... Et déjà, à quelqu'un, ça veut dire quoi ? À quelqu'un de normal qui a été au collège, lycée, qui a fait une fac derrière. Enfin, Ça dépend, parce que déjà, je dirais que ça dépend du niveau de risque de chacun. Et qu'il y a des gens qui sont complètement, qui ont une aversion au risque assez élevée. C'est des gens qui vont vouloir avoir leur appartement avec leurs petits bibelots, leurs objets, leurs trucs, être bien installés, etc. Qui vont surtout pas avoir envie de se dire le mois prochain qu'est-ce que je fais. Moi, je sais que c'est plutôt l'inverse. Pas pour me le raconter en mode je suis courageux, je fais ce que je veux, mais plus dans le côté un peu bête de la prise de risque sans considération. Et de me dire, et je sais qu'à 3 jours de devoir rendre un Airbnb, même si j'en ai toujours pas trouvé un, je suis serein, quoi. Je sais que je vais en trouver un dans les 48 heures ou même dans la demi-journée. Et donc, en fonction de la version risque, ça dépend. Et quelqu'un qui a envie de se lancer, bah déjà, il y a la partie voyage et il y a la partie travail à distance. Je dirais que les deux peuvent fonctionner. Trouver un job à distance d'abord et ensuite bouger où on veut. Ou alors commencer à bouger où on veut, prendre goût à ce rythme-là et du coup se forcer à trouver un job à distance en se disant sur les endroits où on va, sur place, en allant dans les coworking space, etc. Parce qu'on cherche tout le temps à recruter des gens, soit en marketing, en développement, en ce que tu veux. Quelles compétences on a déjà, ça c'est le point numéro 1. Et si on a des compétences à offrir, ben après, trouver des clients sur Internet ou sur... Alors là, on pourrait faire un cours complet là-dessus par la suite. Moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir du réseau là-dessus qui me permet d'avoir des deals, etc. Et ça vient du fait d'avoir monté une startup au début, d'avoir voyagé, d'avoir des choses à raconter. Quand j'arrive sur place et que je rencontre des gens, je fais plein de choses, donc j'ai des choses à dire. Et donc c'est intéressant. Et du coup, je discute avec des gens qui font des choses aussi. Et voilà, donc c'est de commencer à faire des choses, ça apporte... Ça crée une excuse finalement pour rencontrer des gens qui, eux, vont nous apporter des choses en retour. Et nous, on va leur apporter des choses, des clients ou autres, à terme. Donc, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de début, mais en gros, c'est vraiment travailler à distance et voyager. Et ça peut être pris par les deux bouts, quoi. C'est vraiment... Les gens qui n'ont pas trop d'aversion au risque, s'il y a un peu d'argent de côté, tant mieux, commence à voyager finalement, va dans des endroits, des hubs de digital nomades, et juste commence à interviewer les types, tout simplement. Tu vas dans des coworking space ou quoi, les mecs sont toujours chauds pour discuter autour d'un verre ou un café, et de leur dire, vas-y, raconte-moi ton aventure, qu'est-ce que tu as fait, etc., comment tu as appris tes skills. Et donc, on peut commencer cette aventure par le voyage. Et on peut aussi commencer par le travail en disant d'abord je me démerde de me trouver un job qui va bien me payer, qui va me payer à distance, qui en a rien à foutre d'où je vis. Une fois que j'ai mon revenu stabilisé à distance, à ce moment-là, je me dégage mon appartement. Parce que c'est ça le gros coût finalement dans la vie de quelqu'un, c'est l'appartement tous les mois. Parce qu'un mec qui veut voyager tout en gardant son appartement sur place, tu payes double loyer et donc là ça devient vite ingérable finalement. Donc voilà, et avoir ce travail à distance, se sortir de son appartement, vendre ses meubles ou mettre ça dans un dépôt et ensuite commencer à bouger à droite à gauche. Donc voilà, je dirais qu'on peut le prendre par les deux bouts en fonction de son aversion ou pas au risque. Moins on est averse au risque et plus on peut voyager direct, tout balancer et dire voilà, je me mets le dos au mur et j'irai voir ce qui se passe.
Ok, écoute, merci beaucoup Mehdi pour ce podcast, très intéressant.
Merci Xavier, au plaisir.
Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.